Hello les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Si vous avez bien écouté le dernier podcast, je vous avais parlé du fait de répondre un petit peu à vos histoires personnelles en vous conseillant avec mon point de vue. Et j'ai eu plein de retours positifs, j'ai fait des petits sondages sur mes réseaux sociaux et vous avez été vraiment beaucoup à dire que oui c'était une bonne idée et tout. Et j'ai reçu plein de petites histoires. Du coup aujourd'hui ça va être vraiment un petit épisode chill. J'ai rien préparé, j'ai même pas lu vos histoires, donc ce sera vraiment des réponses hyper spontanées que je vais vous donner. Et bref, j'espère que ce petit format il vous plaira parce que je me dis que ça pourrait être cool de faire ça genre une fois tous les deux mois, vu que je reçois vraiment beaucoup de messages pour vous conseiller, bah je trouve que c'est un bon moyen. Comme ça, ça en fait profiter tout le monde, ça nous fait passer un petit moment sympa. En plus, moi j'adore pouvoir vous aider vraiment en vrai, et je trouve que c'est le format le plus cool qui s'y prête. Peut-être qu'un jour je ferai ce format sur YouTube. En plus des podcasts, je sais pas, j'aimerais trop en vrai. En ce moment, je pense grave à YouTube et j'aimerais trop, mais je sais pas, c'est peut-être pas le moment, je sais pas. Bref, passons aux questions et je vais vous dire le premier DM que j'ai reçu. C'est une fille qui me dit « J'ai une copine qui aime toujours son ex depuis un an alors qu'il lui a fait beaucoup de mal. J'ai beau tout faire pour l'empêcher de lui parler, mais elle ne m'écoute pas, j'ai besoin d'aide. » Ce problème-là, je le connais bien. J'ai toujours voulu aider tout le temps tout le monde, sauf que parfois, on peut pas. Ta copine, tu peux pas la forcer à quitter ce mec. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de la conseiller, être là pour elle, les moments où elle est triste, les moments où elle a des doutes, etc. La conseiller sur ce que toi, t'aurais fait, mais tu peux rien faire de plus. Tu peux pas être dans son corps et quitter ce mec pour elle. Vraiment, le seul truc que tu puisses faire, c'est la ramasser à la petite cuillère à chaque fois, même si c'est 1000 fois. Et d'ailleurs, reste une bonne amie et l'abandonne pas pour ça, parce qu'en soi, on est combien à être resté dans des relations toxiques parce qu'on n'arrivait pas à en partir, parce qu'on n'avait pas encore de déclic. Mais tu peux pas la faire avoir un déclic, il faut qu'elle l'ait toute seule, il faut que tu la laisses se faire sa propre expérience, il faut qu'elle décide elle-même de le quitter. Mais toi, à l'heure actuelle, à part essayer de lui ouvrir les yeux, bah vraiment tu peux rien faire d'autre quoi. Je sais que c'est pas facile parfois parce qu'on a envie d'aider les proches qu'on aime, on n'a pas envie de les voir souffrir, mais vraiment tu peux que accepter cette situation parce que tu pourras rien faire. Mais en tout cas, en tant qu'amie, je trouve ça trop cute de m'envoyer ça. Ça veut dire que vraiment t'es sa vraie vraie pote et j'espère qu'elle va bien te garder dans sa vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis qui feraient des trucs comme ça. Alors, deuxième message. En ce moment, vu que je suis une grande dépendante affective et hypersensible, ça fait une semaine que je pleure pour un garçon qui s'en fiche de moi, mais qui m'a énormément manipulée, et j'aimerais savoir comment relativiser, je sais pas trop comment expliquer ça, haha. Alors, le seul truc que tu puisses faire, c'est te concentrer sur les choses qui t'ont fait évoluer. T'as forcément appris des petites leçons que tu ne savais pas forcément avant de le rencontrer, il y a forcément des choses qui t'ont fait évoluer, et il faut que tu te concentres sur ça. Une peine de cœur, même si ça fait mal, ça fait que tu évolues, ça va faire la personne que tu vas devenir après. Et dis-toi que même si ça te fait mal là maintenant, je te promets que dans quelques mois et encore plus dans quelques années, tu n'y penseras absolument plus. Et surtout, tu te diras, mais il était ridicule. En plus, en général, les garçons qu'on a aimés, même si on a pleuré pour eux pendant des mois, je te jure, au bout d'un moment, ils nous dégoûtent. Enfin, moi je sais que ça m'a fait ça avec tous mes ex. À chaque fois je me disais, mais comment j'ai fait au final? Et je suis sûre qu'il y a plein de filles qui vont se reconnaître quand je dis ça d'ailleurs. Mais c'est important quand même que tu te laisses un petit peu être triste, pleure quand t'en as envie, etc. Mais juste reste quand même concentré sur tes activités, essaye de relativiser en te disant que sans ça, il y aurait des leçons que t'aurais pas forcément apprises, ça te fait évoluer, ça te fait grandir. Tu te feras peut-être moins manipuler facilement maintenant, puisque maintenant que c'est arrivé une fois, tu vas pouvoir faire plus attention aux petits red flags qu'il y avait, tu pourras aussi sûrement mieux te protéger dans le futur. Bref, en tout cas, il faut que tu te dises que c'est arrivé pour une raison, que c'était nécessaire pour devenir la personne que tu vas devenir, et que c'est pas si grave, ça pourrait être tellement pire. Je sais que ça te fait mal au cœur, là tout de suite, mais vraiment, dans quelques mois, tu n'en auras plus rien à faire, et t'es bien plus forte que ça, ça va que te rendre plus forte. Et surtout, dis-toi bien que c'est pas parce que ce petit mec nul là, il a pas voulu rester avec toi, que t'as pas de valeur. Justement, je pense que c'est lui qui en a moins que toi, parce qu'il a pas forcément vu ta valeur, et en plus, les mecs, ça regrette toujours, en tout cas dans 98% des cas, même je pense que je pourrais dire 100, mais on sait jamais, du coup je mets une petite marge quand même. Ne l'attends pas, fais ta vie. Si t'as lâché une fois, il te relâchera aussi plus tard, donc ne retourne surtout pas vers lui, c'est hyper important. Et pense à toi, pense à ta valeur, fais des choses qui te plaisent, je te jure que ça va passer. Message suivant, alors, coucou Evel, j'espère que tu vas bien, je trouve que c'est une super idée de podcast et je voulais te demander un petit quelque chose. Pourrais-tu parler des duos dans un trio s'il te plaît? Oh mon dieu, petit aparté, mais ça c'est horrible. La suite du message, du coup, c'est j'ai un trio et il y a moi et une copine qui sont chaque fois mis à l'écart une après l'autre. D'abord, c'est moi, la meilleure amie de la troisième, et après, c'est mon autre copine. Ça ne s'arrête pas. J'espère faire partie de tes sélections. En tout cas, merci. Voilà, merci beaucoup pour ton petit message, c'est trop mignon. Mais ouais, le sujet des trios, oh là 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 là. Moi, j'ai eu une expérience comme ça. Je vous raconterai un jour, vraiment en détail, quand je vais parler de l'adolescence. Mais c'est tellement la pire chose du monde quand ça se passe mal, ce genre d'amitié. C'est horrible. Mais franchement, dans ton cas, je trouve que bah, de toute façon, t'as l'air de déjà savoir qui est la personne toxique. Donc, si la personne... En fait, s'il y a une sorte de rivalité dans votre amitié, il faut que tu t'en éloignes. Parce que vraiment, c'est sûr et certain que ça finira pas bien. Et je dis ça vraiment en connaissance de cause. Sors-toi de la situation avant que ça dégénère trop. Même si ça te fait mal au cœur de les laisser ensemble, toutes les deux, je te jure qu'à force, ça peut te détruire. Donc après, fais ça seulement après en avoir parlé. Mais si tu vois que la copine problématique, elle veut rien entendre, qu'elle retourne les situations, qu'elle se braque ou quoi, franchement, éloigne-toi et vraiment essaye de trouver des copines plus saines que ça. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que en fait, ta copine, elle joue avec vous deux. Elle est en mode un coup après faire une, un coup après faire l'autre, enfin c'est un peu n'importe quoi. Soit vous traitez toutes les deux de la même manière tout le temps, soit bah, qu'elle reste toute seule en fait. Je sais pas, moi je comprends pas ce genre de comportement, mais du coup, à part essayer de s'en éloigner, vraiment ne reste pas copine avec elle. Elle est malsaine et elle mérite pas d'avoir quelqu'un qui a l'air gentil comme toi, donc pars de cette amitié. C'est le seul conseil que je peux te donner. Tu verras qu'un jour tu vas trouver des copines saines, qui t'estime vraiment à ta valeur, qui joue pas avec toi comme ça, avec tes sentiments. Et là, tu te diras, j'ai bien fait de partir. Donc laisse de la place pour de meilleures personnes et arrête de traîner avec cette personne malsaine. Alors, autre message. Coucou Evelyne, je me permets de te contacter car j'ai vu que tu comptais faire un épisode de podcast où tu parlais de mes problèmes personnels, enfin de nos problèmes personnels. Alors voici ma question. Comment réussir à avancer lorsque nos problèmes familiaux nous l'empêchent? J'espère que tu pourras m'aider. Ok, merci beaucoup. Comment réussir à avancer lorsque nos problèmes familiaux nous l'empêchent? C'est tellement complexe, surtout quand t'es adolescente et que bah, tu peux pas encore partir de chez toi. Franchement, essaye d'avoir un maximum d'activités qui te sort de cette bulle familiale. Essaye d'avoir... moi, je sais que j'avais une amie qui était vraiment... Enfin, qui avait des problèmes aussi un petit peu compliqués comme ça dans sa famille. Et ce qui la faisait sortir de tout ça... C'était vraiment d'être super créative. Et c'est vrai que malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais je pense que tant que t'es dans ce contexte familial, tu vas être obligée de subir ces choses-là. Donc essaye de toi, te concentrer sur toi-même, d'être créative, de développer tes facultés, de vraiment être concentrée sur toi-même et de pas prendre trop tes problèmes familiaux personnellement, parce que tu n'y peux rien, je pense. Et essaye un petit peu d'être détachée. Je sais pas si tu vois une psy... Mais si tu n'en vois pas, essaye d'en trouver une avec qui tu t'entends bien, ça peut que te faire du bien. Mais après, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas trop de précision, là, je peux que donner une idée générale de ce que je ferais. Mais ouais, j'essayerai de me concentrer sur mes activités, sur moi-même, sur le fait de me développer moi-même. J'essayerai de ne pas trop prendre personnellement tout ce qui se passe, de m'en détacher un petit peu et d'essayer de faire en sorte d'anticiper le moment où je pourrais partir en mettant de l'argent de côté, en ayant des petits plans sur ce que j'aimerais bien faire, etc. Parce que je pense que malheureusement c'est un peu les seules solutions, mais n'hésite pas à me renvoyer un message si tu te reconnais, pour qu'on en parle un petit peu plus en détail, parce que parfois c'est un peu plus complexe et peut-être que j'ai pas vraiment bien répondu par rapport à ton problème, parce que des fois c'est un petit peu plus précis et peut-être que ça va pas forcément rentrer en compte ce que je dis. Donc j'essaye de vous conseiller au mieux, mais c'est vrai que je suis pas psychologue, du coup j'ai peur de faire des petites gaffes, mais en tout cas sachez que j'essaye de faire vraiment au mieux. Autre question, alors, quand on est seul et en très grande difficulté, comment demander de l'aide? Ben, en essayant d'aller voir, en fait, ça dépend tellement des situations. Si t'es jeune et que t'es au collège et au lycée, à part aller voir une personne adulte de confiance, c'est compliqué, tu peux faire que ça. Si t'es adulte et que t'es vraiment dans ton appart, etc., il y a plein de numéros d'appels. Je sais pas trop ce que ça vaut parce que j'ai jamais trop essayé, mais je crois que c'est pas si ouf. Mais à part aller voir sinon, bah du coup, psychologue, psychiatre et assistante sociale, etc., en fait ça dépend de la très grande difficulté que t'as, mais j'imagine que c'est en termes de santé mentale. Et si c'est en termes de santé mentale, il faut aller voir un psy. C'est la seule chose à faire, essaye d'en trouver un bien, demande à ton médecin traitant, et surtout, ça je vais insister vraiment à chaque fois, mais si vous trouvez un psy avec qui vous n'avez pas le feeling, changez de psy. Parce qu'il y en a vraiment qui sont toxiques, malheureusement, et c'est fou, je sais que dans ce métier-là, il y a des personnes malsaines, Mais c'est vraiment le cas, donc il faut se protéger, il faut faire attention. Si vous avez un mauvais feeling, partez, changez de psy, vraiment. Message suivant. Alors, j'ai une meilleure amie et en fait, je commence à avoir l'impression que c'est une amitié à sens unique. Je lui offre des fleurs pour la Saint-Valentin, je lui propose tout le temps de faire des sorties, et soit elle me dit « non, je peux pas », soit elle me dit « oui », et après elle annule à la dernière minute, et ça m'embête énormément parce que après moi, mes plans, ils sont déjà faits, et le truc, c'est que je lui en ai déjà parlé. Elle s'est excusée, après j'ai grave culpabilisé de lui avoir dit, et au final ça a servi à rien de lui en parler car elle recommence et je vois qu'elle sort souvent avec d'autres amis à elle. Et je me dis, elle a pas le temps pour moi, mais elle a le temps pour eux. J'ai vraiment l'impression d'être folle et ça me rend malade. Est-ce que tu peux me dire si j'exagère trop la chose ou alors si j'ai raison? Alors vous voyez, ce genre de situation, c'est exactement ce dont je parlais dans mon épisode sur les relations malsaines. C'est exactement la représentation du début de déséquilibre dans une relation. Il y a quelqu'un qui met toute son énergie dans cette relation, et l'autre qui, bah, on en a un petit peu rien à faire, c'est pas forcément qu'elle s'en fiche, mais c'est une question de pas mettre la même énergie, en fait. Déjà, quand vous voyez que quelqu'un ne vous donne pas la même énergie, baissez un petit peu votre énergie. En vrai, c'est triste, hein, parce que je sais que quand on a bon cœur, qu'on aime beaucoup les gens, bah, on fait pas exprès, on donne genre sans compter, on n'a pas besoin de reconnaissance, et on le donne parce que vraiment, ça nous fait plaisir. Sauf que, malheureusement, des fois, il vaut mieux s'arrêter pour se protéger soi-même, parce que tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde n'est pas 100% gentil, et même des fois si t'as l'impression que c'est ta meilleure amie vraiment de tous les temps, des fois elle te voit pas forcément pareil que comment toi tu la vois. Mais pour autant, son comportement, ça veut pas dire qu'elle t'estime pas forcément. Mais en tout cas, vous avez clairement une perception différente. Je pense qu'il y a un gros manque de communication ici, mais il faut chercher à comprendre pourquoi elle considère pas tes besoins. Pourquoi quand tu lui dis que toi il y a des choses que t'aimes pas, bah elle continue à les faire. Elle s'excuse, mais elle continue à les faire. Par contre, je pense que t'aurais pas dû culpabiliser en lui disant ce que tu ressentais, parce que t'as pas à culpabiliser pour des sentiments que t'as. Tu peux culpabiliser si tu lui as mal parlé, par exemple, mais pas pour lui avoir dit tes besoins. C'est hyper normal de partager tes besoins dans les relations que t'as, pour que les relations restent saines. Et peut-être qu'elle prend la confiance aussi parce qu'elle voit que t'es quelqu'un de trop gentil, parce que si tu t'excuses de lui avoir juste dit ça, c'est que tu fais partie des petits people pleasers. Être people pleaser, c'est être en général trop gentil et avoir des comportements trop gentils, et les gens toxiques adorent les people pleasers. Mais c'est... je disais ça dans le sens où il faut savoir ne pas trop s'excuser tout le temps non plus, et tout le temps se remettre en question, et tout le temps se dire qu'il faut qu'on essaye de mettre les gens bien avant nous, parce qu'en fait, toi, en t'excusant pour avoir exprimé tes besoins, bah tout ce que tu dis à ton inconscient, à ton cerveau, etc., c'est que bah t'aurais pas dû exprimer tes besoins. Mais si, il y a quoi de mal à avoir exprimé tes besoins? Rien du tout. En fait, elle se dit sûrement « Ah, mais de toute façon, elle est archi gentille, et puis elle va toujours laisser passer ce genre de choses. » Elle, de sa perception, elle pense que c'est pas très grave, mais en fait, il faut que tu lui fasses comprendre que toi, ça te touche vraiment, que c'est important dans votre amitié, qu'elle fasse un effort sur ça, parce que bah, toi, tu te sens pas trop respectée, puisque tes besoins, t'as l'impression qu'elle s'en fiche un petit peu. Dis-lui gentiment, vois ses réactions. Si tu vois qu'elle fuit, qu'elle retourne le truc contre toi, qu'elle n'arrive pas à t'écouter, que vous pouvez pas communiquer alors que tu lui as parlé gentiment, je pense que le mieux, c'est de t'éloigner et de laisser malheureusement cette amie. T'es pas obligé de plus du tout lui parler, mais en tout cas, éloigne-toi et détache-toi un petit peu. Parce que c'est clairement un signe de personne toxique de se braquer et de pas écouter les besoins des personnes qu'on est censé estimer. Mais si tu vois qu'elle est dans l'écoute et qu'elle essaye de vraiment comprendre et de faire un effort, reste amie avec elle. Mais je pense que le gros souci, ouais, dans cette problématique-là, c'est un manque de communication. Elle n'a pas compris, je pense, que c'était vraiment quelque chose d'important pour toi. Donc, essaye de lui faire comprendre. Alors, autre petit message. Je sais que tu as déjà fait plusieurs TikTok par rapport aux relations amoureuses, mais j'ai 17 ans et demi et j'ai jamais été en couple. Je me sens pas normale, du coup, mais j'aimerais vraiment connaître l'amour, mais en même temps, vu que j'ai jamais rien vécu, j'ai peur de m'attacher trop vite et de souffrir, donc c'est un cercle vicieux. Ok, déjà ça, parce qu'après, il y a des petites questions auxquelles je vais répondre juste après, dans la suite du message. Déjà, c'est absolument pas grave. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai une de mes meilleures potes, vraiment meilleure pote. Elle est trop belle, et elle a jamais eu de copain. Et pourtant, là, elle a 26 ans. Enfin, c'est vraiment pas très grave du tout. Dis-toi qu'au moins, tu peux te concentrer sur toi-même. Y a pas besoin de te presser. T'appréhendes au final des situations qui ne sont même pas là. Qui te dit que ça se trouve, tu vas rencontrer la bonne personne directement? C'est assez rare, mais ça se trouve, tu vas tomber sur la bonne personne directement et t'auras pas besoin d'avoir peur de t'attacher trop vite parce que lui va s'attacher tout autant que toi, tout aussi vite. Et le fait que t'aies peur de souffrir, ça sert à rien d'avoir peur en avance, de toute manière. Enfin, comme on dit... Appréhender une situation en avance alors qu'elle n'est même pas en train d'arriver, c'est juste souffrir deux fois. Je sais plus où j'ai vu cette phrase et je sais pas comment elle était dite. En tout cas, c'est l'idée de la phrase et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, te mets pas de pression sur ça. Je sais que dans la société, il y a une pression sur ça, d'avoir un copain, d'avoir son premier amoureux et tout. Mais il n'y a pas de règle, rien n'est forcé. Vis ta petite vie, ça va t'arriver quand ça devra t'arriver. Vraiment, ne force pas ça parce qu'en fait, tu vas tomber sur des personnes qui te conviendront pas forcément. Enfin, je trouve que vraiment, l'amour, c'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Et vraiment, de ne jamais avoir eu de copain. Je sais pas, tu as quel... Ah oui, 17 ans et demi. Et vraiment, 17 ans et demi, mais t'es tellement jeune. Je sais que quand on est au lycée, on a l'impression que toute notre vie se passe maintenant, mais t'auras tellement de temps après. Enfin, vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Ensuite, elle m'a dit comment rencontrer et aborder quelqu'un quand on n'est pas à l'aise. Et je sais pas si la loi de l'attraction marche en amour, mais est-ce que tu pourrais expliquer comment on manifeste en amour, s'il te plaît? J'ai pas encore beaucoup parlé de manifestation, mais je pense que pour manifester les bonnes personnes dans notre vie, il faut bien savoir qu'on mérite déjà d'avoir les personnes qu'on veut. On mérite d'avoir des personnes qui sont égales à notre valeur. Mais pour ça, déjà, en tout premier lieu, il faut savoir s'aimer soi-même. Et je pense que, justement... t'es pas forcément à l'aise à rencontrer des gens parce que t'as peut-être pas forcément archi confiance en toi, tu t'aimes peut-être pas assez aussi. Et c'est important en fait que tu passes par l'étape où tu définis vraiment ce que tu veux. Moi j'aime bien le fait de vraiment se faire une liste pour avoir une vraie visualisation sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Parce que c'est vrai que quand c'est juste dans notre tête, on a du mal à vraiment l'appliquer. Alors que si t'as une liste de choses que tu veux et que tu veux pas, déjà tu sauras te mettre des limites par rapport à tes besoins. Et ça c'est méga important. Donc vraiment n'hésite pas à faire une petite liste des choses que tu ne veux pas chez les gens. Comme ça tu fais des petits check-in à chaque fois quand les relations évoluent. Et comme ça tu sais que tu vas pouvoir respecter vraiment tes besoins. Et de toute façon, crois-moi que si tu tombes sur la bonne personne, tu seras à l'aise avec elle. Te prends pas la tête pour ça parce que quand on trouve nos âmes sœurs, les personnes qu'il faut qu'elles partagent notre vie vraiment, on est à l'aise avec elles parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte de moitié de nous qui nous parle. Donc encore une fois, vraiment, te mets pas de pression. T'as pas besoin de te dire est-ce que je vais être à l'aise, est-ce que je vais pas être à l'aise. Concentre-toi sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que t'aimes, etc. Et tout le reste va venir tout seul. C'est avec l'amour de soi, en fait, qu'on attire les choses tout seul. Et ça, tu le comprendras en travaillant dessus et en écoutant toutes mes petites vidéos et tout où je parle de ça. Ça peut que t'aider. Donc voilà, voilà. Autre message. Alors, c'est un peu court et brouillon, mais j'aimerais vraiment avoir de l'aide. Ça fait un an maintenant que j'ai perdu mes deux copines. On ne se parle plus du tout aujourd'hui. À part elle, j'avais personne d'autre comme copine, donc je me retrouve seule. Mis à part ma sœur et mes copines à elle, qui sont vraiment là pour moi, mais c'est vraiment pas pareil que des copines. Enfin bref, le problème c'est que depuis que je n'ai plus aucune interaction sociale, et j'ai vraiment du mal, quand je me retrouve avec de nouvelles personnes à m'exprimer et à parler, je ne sais pas avoir de discussion. Je coupe toujours court par peur de dire n'importe quoi et de devenir gênante. J'aimerais vraiment me faire de nouvelles amies en sachant que je ne vais plus à l'école, donc c'est encore plus compliqué de faire de nouvelles connaissances. J'aimerais vraiment que... Le message est coupé. Oh non. Bon, je pense de toute façon qu'elle veut surtout que la situation s'améliore. Mais je pense que là, le souci principal, c'est vraiment le fait de commencer à faire de l'anxiété sociale, sûrement. Enfin, en tout cas, moi, je sais que mes premiers signes d'anxiété sociale, c'était vraiment le fait de ne pas réussir à parler avec les gens parce que j'avais peur de dire n'importe quoi et de devenir gênante, justement. Je pense que t'apportes beaucoup trop de considération à ce que les gens pensent de toi. Déjà, je pense que ça t'a réduit ta confiance en toi, ton amour de toi, de perdre ces deux copines, et que du coup t'as sûrement l'impression d'avoir moins de valeur qu'avant. Alors encore une fois, sache que c'est pas elle qui faisait ta valeur de toute manière, même si je sais que c'est difficile de penser ça, c'est vraiment vrai et tu te rendras compte à un moment. Mais là je pense que c'est vraiment une question de te recentrer sur toi à fond, de penser aux choses que t'aimes, de faire les activités que t'aimes, de penser à ce que tu veux faire plus tard, et... Moi aussi, je sais ce qui m'a aidé vraiment à un moment, c'est de faire une liste de mes qualités, de mes défauts, des choses que je pouvais améliorer, des choses qui étaient très bien comme elles étaient déjà à l'heure actuelle. Pense à des activités aussi que t'aimais quand t'étais un petit peu plus jeune, un petit peu plus petite. Ça aussi, ça m'a grave aidé personnellement parce que j'avais totalement oublié. Je pensais tellement tout le temps aux autres, au regard des autres, à ce qui se passait, en tout cas à l'extérieur de moi-même, alors que au final dans notre vie, le plus important c'est de savoir vraiment écouter son cœur, écouter ce que notre petite voix nous dit. Si tu te concentres sur tes valeurs, sur le fait de t'aimer, sur le fait de t'occuper de toi-même comme si tu étais une autre personne, de vraiment prendre soin de toi, je te jure que tu vas reprendre de la valeur. Enfin, non pas que tu n'as pas de valeur, mais tu vas avoir de la valeur à tes propres yeux et l'anxiété sociale, elle va se dissiper parce que dès qu'on sait notre valeur, on n'a plus besoin de douter, on n'a plus l'impression qu'on va être gênante parce qu'on sait que même si on est gênante un coup, bah ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui va faire que ça nous enlève de la valeur. Donc travaille vraiment sur ça et travaille surtout sur ta vision par rapport au regard des autres. Parce que je pense que c'est le gros problème surtout. Et fais plein d'activités pour prendre soin de toi. Je pense que c'est les deux trucs les plus importants sur lesquels tu dois te concentrer pour le moment. Petit message suivant. Alors, j'ai une meilleure amie et je suis en dépendance affective avec elle. Comment faire pour la laisser respirer, ne pas être trop collante et insécure, mais d'un côté, ne pas me sentir mal non plus. Si ton amie, c'est vraiment ta meilleure amie, normalement, tu peux être libre de lui parler dès que t'as des doutes, etc. Si c'est vraiment ton amie, elle va comprendre et c'est ça qui fera que tu pourras avoir une relation saine avec elle. Donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment de lui parler de tes doutes sans lui faire des reproches. Tu lui parles surtout de tes sentiments. En fait, axe vos conversations surtout en parlant de tes émotions et de pourquoi tu te sens comme ça, mais sans vraiment lui faire de reproches. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus important parce que c'est ça qui l'étouffera. Alors que si tu lui parles de toi, si tu lui dis vraiment ce que t'as dans la tête, même si c'est récurrent, normalement, ça va pas l'étouffer parce que ça la concernera pas, elle en sera consciente. Et à côté, ce que tu peux faire, c'est encore une fois, prendre soin de toi, faire en sorte de prendre de la valeur à tes propres yeux, de passer des moments qualitatifs avec toi-même, toute seule, avoir des activités sans elle, bref, avoir une vie aussi toi personnelle où tu ne vois pas que par elle tout le temps parce que c'est ça qui va te sortir vraiment de la dépendance affective. Ah oui, et un truc que moi j'aurais bien aimé entendre quand j'étais hyper dépendante affective, c'est que c'est pas parce qu'il y a des personnes que j'estimerais entre guillemets mieux que moi, parce qu'au final la dépendance affective, le truc le plus chiant c'est qu'on a peur de se faire remplacer, on a peur que d'autres gens soient mieux que nous, mais ce que toi tu peux apporter à une personne, personne d'autre ne peut apporter exactement la même chose, donc sois bien conscient de ta valeur. Je pense que de toute façon c'est vraiment le problème principal dans la majorité des problèmes de santé mentale, de développement personnel, donc vraiment prenez vraiment en considération votre valeur, faites des tableaux où vraiment vous savez que vous avez réussi des choses, vous savez toutes que vous avez des qualités à mettre en valeur, que vous avez des choses uniques chez vous, donc vraiment travaillez sur ces choses-là, concentrez-vous sur ces choses-là et essayez de ne pas penser, de mettre un filtre en fait sur vos défauts. En fait, faut pas le cacher, faut pas non plus ne pas y penser du tout, il faut savoir chérir nos faiblesses, nos défauts, mais c'est important de pas se concentrer que sur ça, parce que vous avez forcément des choses positives chez vous, donc vraiment pensez à ça surtout. Mais ouais, en tout cas, et des activités toute seule, vraiment essaie de dédier 2 moments par semaine minimum où tu passes du temps tout seul, sans elle, où tu te concentres sur toi, même tu essayes de pas lui parler à ces moments-là et tout. Et quand t'as trop de doutes, quand t'as besoin de lui parler de tes doutes, etc., n'hésite pas en lui parlant surtout de tes émotions, de ton point de vue, de ta perception des choses, sans lui faire de reproches. Et je pense que ça pourra que aller dans ce cas-là, si c'est une personne bien, évidemment, mais je pense que ça ira. Le message suivant. Me concernant, j'ai beaucoup d'objectifs basiques comme faire du sport régulièrement, manger plus sainement, avoir de bonnes notes en cours. J'adore l'organisation, alors j'arrive à tout planifier. Mais je finis toujours par louper le sport ou travailler au dernier moment, dû à la fatigue. Pourtant, je dors entre 6h et 8h chaque nuit, mais je me sens tout le temps épuisée et j'abandonne tous mes objectifs et routines. En suivant tes vidéos, j'ai compris qu'il fallait pas trop remplir mon emploi du temps et y aller petit à petit. Mais même aller au sport, une fois à deux fois par semaine, je n'y arrive pas. As-tu des conseils à me donner ? Alors, de ce que je comprends, c'est surtout ta fatigue. Je sais pas si tu t'es déjà renseignée sur les cycles de sommeil, mais c'est important de dormir soit 6 heures complètes, soit 7h30 complètes. Donc déjà, sois sûr de ça, parce que des fois, on va dormir 6 heures, mais on va mettre 40 minutes à s'endormir, et du coup, on se retrouve à dormir seulement 5 heures. Donc essaye de faire attention à ça. Les petits tips que je peux donner pour se sentir moins fatiguée dans la journée, le matin, ne pas boire de café la première heure, ni de thé d'ailleurs. Je sais pas si tu le fais, mais je vais donner des petits conseils comme ça. Manger salé et protéiné. Alors je sais que des fois ça peut paraître bizarre, mais en fait le matin il faut faire super attention à son taux d'insuline et le café aussi, c'est pour ça que je le conseille. Il faut pas boire de café. À cause de ça, ça fait monter le taux d'insuline qui fait qu'on a plus de stress et qu'on est fatigué plus vite dans la journée. Plus le fait de manger sucré, ça fait monter notre taux d'insuline aussi, donc il faut surtout manger salé. le matin. C'est hyper important. Tu peux manger un petit peu de sucre, mais vraiment pas beaucoup, genre un petit sucre dans une petite infusion par exemple, c'est pas grave. Mais te fais pas des grosses tartines de trucs sucrés parce que forcément que tu vas être plus fatigué dans la journée. Et ta fatigue peut aussi avoir un rapport avec ce que tu manges la journée. Si tu manges trop de choses industrielles, pas assez de légumes, en tout cas si tu manges pas assez équilibré, c'est possible que tu sois plus fatigué. Et n'hésite pas à faire un petit bilan sanguin aussi chez ton médecin parce que peut-être que tu as des carences en fer, en magnésium ou je sais pas. Et ça peut aussi causer malheureusement un manque d'énergie. Donc essaye de vérifier tout ça et d'appliquer mes petits conseils et je pense que déjà ça ira mieux. Ok, alors prochain message, je vais passer au mail parce que j'ai peur de rater des trucs principaux. Ok, donc. Coucou Evel, en ce moment j'ai des petits coups de mou qui font que je suis un peu aigrie, je passe une journée presque à faire la tête pour rien, avec le mauvais temps qui ne m'aide pas trop, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour lutter contre ces mini-dépressions, comme on l'appelle ? C'est surtout être des petits coups de mou. Mais après, je pense qu'on est dans la période vraiment où c'est archi normal. Et à part faire des petits plannings, essayer de prendre des vitamines, prendre l'air aussi, faire du sport, se bouger surtout parce que c'est vrai qu'on est un petit peu tenté de rester à la maison et tout. Et puis de toute façon, après là, le printemps il arrive, j'ai trop hâte. C'est vraiment ma saison préférée. Mais ouais, à part se motiver, enfin, déjà faut se dire que avoir des coups de mou, c'est hyper normal de temps en temps. Mais après, si c'est trop souvent, bah il faut regarder si vous n'avez pas un problème de carence ou quoi, parce que ça peut y faire. Hein. Même juste le fait le magnésium, etc., ça peut vous rendre plus stressé, ça peut vous rendre un peu plus de mauvaise humeur. En plus, on a aussi moins de soleil, donc... Mais ça, de toute façon, ces petits problèmes-là, là, on en sort, je pense, puisque bientôt, c'est le printemps. J'ai vraiment trop, trop hâte. Mais ouais, quand ça vous arrive, je pense que c'est important de faire un petit bilan sanguin, au cas où, pour être sûr, prendre peut-être des compléments alimentaires, de vitamines, etc. Et moi, je sais que c'est ce que ma mère m'a fait faire à chaque fois que j'avais des coups de mou en hiver. Et à chaque fois, bah, ça se réglait comme ça. Enfin, quand c'était pas à cause de ma santé mentale, quoi. J'ai un autre mail, là, il est un petit peu long. Mais c'est pas grave, j'aime bien les histoires un peu longues. Alors, coucou. Je me suis mise avec mon copain. 2 mois après, je partais vivre dans un autre pays pour 1 an. Au bout de 6 mois de relation, il m'appelle pour me dire qu'il n'a aucun sentiment amoureux. Oula. Il pense avoir compris que c'était de l'amitié. Il veut me garder en ami. J'étais dévastée, mais on a continué à se parler aussi fréquemment qu'avant, donc tous les jours. Et je suis rentrée en France 2 semaines après, c'était déjà prévu avant. On s'est vus et c'était comme avant, sauf qu'on n'avait pas de contact amoureux, mais l'alchimie était la même. On est même parti en week-end ensemble, tactile, avec des câlins, mais jamais plus qu'un simple câlin. Mais un vrai câlin où tu sens l'amour dans les bras de l'autre. Puis je suis repartie à l'étranger, on se parlait d'autant plus, il est venu me voir à l'étranger et il m'a dit qu'il n'arrivait pas à être ami avec moi, qu'il était en phase avec lui-même quand il était avec moi, il était heureux, qu'il avait une confiance absolue en moi et qu'en France il se sentait encore fidèle à moi et il a décrit exactement tout ce qu'on fait quand on est amoureux mais que c'était la première fois qu'il ressentait ça, qu'on lui donnait ce sentiment de façon saine et qu'il ne savait pas si c'était ça l'amour parce qu'il n'a pas eu l'étincelle la première fois qu'il m'a vu ou qu'il n'a pas le cœur qui palpite tout le temps. Ça c'est pas grave ça. Mais qu'il ne supporterait pas qu'on ait plus de contact car je suis nécessaire à sa vie maintenant, même en étant loin. Quand il est parti, on s'est embrassé avec tellement d'amour à l'aéroport. Mais c'est trop chou! La distance n'est tellement pas un problème entre nous, il me traite comme j'en ai toujours rêvé et j'ai accepté de lui laisser encore un peu de temps pour réfléchir. Mais je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement d'amour entre nous, on sait qu'on n'est pas amis mais pour l'instant il ne sait pas si on est plus. Bah écoute, je pense qu'en vrai, il t'aime. Enfin, là, déjà, t'es pas obligée d'avoir... C'est vrai qu'en fait, aussi, les films, les livres, les séries, tout ça, là, on croit toujours que l'amour, c'est... Bam, t'as un flash, ça tombe dessus. Bam, tu peux vraiment plus vivre sans la personne. Tu peux plus respirer sans elle. Alors que ça peut très bien venir petit à petit. Et je pense que c'est beaucoup plus souvent comme ça, d'ailleurs. Mais peut-être qu'il se prend trop la tête. Peut-être qu'il a peur ou quoi. Mais là, de ce que tu me dis, moi, pour moi, il t'aime. Parce qu'en plus, ton petit mail, c'est « Est-ce qu'il m'aime ?» Mais oui, il t'aime, je pense. S'il veut pas voir sa vie sans toi, etc. Dans tous les cas, c'est une sorte d'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est du sentiment amoureux. Mais de toute façon, là, à part attendre qu'il sache ce qu'il veut... Enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'il sait déjà ce qu'il veut dans le sens où il veut pas ne plus être avec toi. Il veut pas que vous n'ayez plus de contact, donc il veut pas te quitter, tu vois. Donc moi, je pense que vous avez pas forcément besoin de vous prendre la tête. J'ai l'impression que vous avez une relation spéciale, vraiment spéciale. Donc, il n'y a pas de raison. Franchement, vous prenez pas trop la tête. Je pense que c'est ça le problème principal, c'est que vous vous posez trop de questions, etc. Alors que quand vous êtes ensemble, ça se passe très bien. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Donc, essayez de lâcher un peu plus prise sur votre relation. Et je pense que tout va aller dans le meilleur des mondes. Genre vraiment, je vois pas de red flag ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est un peu perdu parce qu'il a jamais ressenti ce qu'il a ressenti. Mais ça m'a pas l'air plus compliqué que ça. Voilà, bon, ça fait déjà 40 minutes que je parle là dans mon podcast. Et j'avoue que j'ai peur qu'il soit un petit peu trop long. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et me dire si ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment trop aimé. J'avais encore plein d'histoires, donc n'hésitez pas, même si vous voulez que j'en fasse une vidéo TikTok, du reste des histoires, ou je sais pas, si vous avez des idées. Mais moi, en tout cas, j'ai trop aimé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, ça me ferait archi plaisir. Et la semaine prochaine, de toute façon, je reprends comme d'habitude un petit thème. Comme d'habitude, on en parle aussi en story. Il y a mon compte Instagram dans la description de mon podcast. Donc j'en parlerai en story. Je vous poserai les questions, enfin, je vous parlerai du thème dont je vais parler la semaine prochaine. Plus, je vous mettrai la petite boîte à questions pour savoir si vous avez des questions par rapport à ce thème-là. Et voilà. Du coup, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous.